Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Et cette semaine, dans l'émission, nous avons décidé de nous intéresser à un phénomène qui a pris une ampleur inédite, en particulier depuis le début de la crise sanitaire, c'est le télétravail et la manière dont les entreprises, souvent sur injonction gouvernementale, s'adaptent aux différentes vagues de la pandémie. Et on est amené à s'interroger sur la pérennité de ce phénomène, sur son ampleur. On est aujourd'hui 60% seulement des entreprises et des salariés qui pourraient télétravailler le sont. C'est moins bien qu'à d'autres moments, avec une région qui est beaucoup plus réceptive, c'est l'Île-de-France, avec presque 70% de salariés concernés qui sont passés en télétravail. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Proust. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice du cabinet Selki, c'est donc vous intéressez aux ces questions des ressources humaines, également consultante auprès de la Fondation Jean Jaurès, et vous avez, avec la Fondation, publié un ouvrage qui s'appelle « Télétravail, la fin du bureau ?» point d'interrogation. Donc vous vous êtes interrogé sur l'impact finalement de ce télétravail sur les modes d'organisation des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Est-ce que ça vous semble un phénomène lié précisément à la pandémie, ou est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois, les années qui viennent, une fois qu'on aura dépassé cette crise sanitaire, à ce que le télétravail devienne quelque chose de plus massif et de plus généralisé qu'auparavant ?
Alors vous avez raison, il faut distinguer au fond les deux phases, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est un télétravail rendu obligatoire par les décisions gouvernementales, mais vu la façon dont le télétravail s'est organisé dans les entreprises et dans les administrations depuis mars 2020, beaucoup de salariés et beaucoup d'entreprises d'ailleurs y ont vu des avantages, et donc ce qui est en train de s'organiser, c'est une hybridation du travail avec une partie des salariés de bureau, puisque ça ne concerne que les salariés de bureau qui continueront à travailler un peu au bureau, probablement la moitié du temps, et la moitié du temps en télétravail, en espérant que le télétravail ne soit pas à terme à domicile seulement, puisque c'est l'un des risques, à mon avis, du télétravail généralisé, c'est le lieu dans lequel il se situe. Donc, au fond, pour répondre à votre question précisément, les expériences de télétravail vont nous faire gagner beaucoup de temps en termes d'inscription de cette nouvelle organisation du travail dans le temps, puisque en 18 mois, on aura vu à peu près tous les aspects positifs, tous les aspects négatifs et toute la régulation qu'il faut faire de cette nouvelle organisation du travail.
Alors, c'est une sorte de grande expérimentation liés aux avantages que procure le télétravail. On voit bien par rapport effectivement à la crise sanitaire, c'est la réduction de la massification des transports, la réduction des interactions sociales aussi, mais on commence aussi à parler des freins ou des risques pour les salariés, notamment liés au télétravail, étant entendu que la première inégalité face au télétravail, c'est que ça se passe probablement pas de la même manière si on est dans une PME ou si on est dans une très grosse entreprise. Les conditions de mise en place du télétravail ne sont déjà pas les mêmes.
Tout à fait. Le télétravail a révélé toutes les inégalités entre les salariés, et c'est à mon avis un point très important sur le télétravail, dont on peut saluer effectivement tous les aspects positifs en termes de confort de vie pour un certain nombre de salariés. Mais néanmoins, pour moi, la question des inégalités, elle est centrale. D'abord, de manière générale, parce que contrairement à ce qu'on a beaucoup pu penser, le bureau est un lieu relativement égalitaire du travail. Je dis relativement. Pourquoi ? Parce que même si le patron et la secrétaire n'ont pas le même bureau, on a à peu près dans une organisation tous accès à la même restauration collective, aux mêmes salles de réunion, aux mêmes outils informatiques. Donc le bureau est un lieu plutôt égalitaire, quand le télétravail est très inégalitaire, puisqu'il s'appuie sur les conditions individuelles des gens. Donc en fonction de là où on vit, on a des facilités ou pas pour télétravailler, si on a une pièce adaptée, si les enfants sont dans les parages, etc. Donc ça, c'est la première inégalité. Évidemment qu'il y a aussi des inégalités liées à ce que les entreprises fournissent entreprises ne fournissent pas aux salariés. Il y a aussi une égalité liée au fait que toutes les tâches ne sont pas télétravaillables. Moi, j'ai un certain nombre des clients que j'accompagne qui me disent, nous, on aimerait bien pouvoir dire oui au télétravail, mais nos missions ne sont pas télétravaillables. Donc, ce qui est très intéressant sur le télétravail, c'est qu'au fond, il a révélé la disparité des conditions de travail des salariés qui étaient plutôt homogènes avant la crise parce que tout le monde travaillait dans un même lieu, le bureau qui est donc ce lieu qui a 200 ans maintenant hein, sur l'histoire du bureau et que le fait d'avoir explosé, fragmenté le lieu de travail entre plusieurs lieux et notamment le domicile, fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de droit ou en tout cas d'égal accès des salariés à la fonction ou en tout cas au travail et que ça c'est un sujet qui est devant les entreprises, qui se fait du coup entreprise par entreprise et pas avec des règles homogènes pour l'ensemble des salariés. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui renvoyé aux organisations, qui me semble compliqué un peu, non pas le dialogue social qui s'est pas beaucoup compliqué sur ces sujets-là puisque tout le monde a fait beaucoup d'efforts en voyant un peu que les contraintes sanitaires exigeaient cela, mais quand on va rentrer dans une organisation pérenne du télétravail, donc du coup c'est bien quand on va revenir dans un rythme j'allais dire normal ou en tout cas généralisable du télétravail, que ce sujet de l'inégalité des salariés porté par le télétravail ou accentué par le télétravail va se poser aux organisations et ça je pense que c'est un sujet qui est devant nous et que nous devons traiter d'ores et déjà dans les organisations.
Alors on a vu que depuis le 3 janvier où le gouvernement a demandé fortement aux entreprises d'aller vers 3 voire 4 jours de télétravail, on a quand même une moins bonne réception du message puisque on est en dessous des chiffres du mois d'avril dernier. On était à 78% de gens qui pouvaient passer en télétravail et qui étaient, et là on est descendu à 60%. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de freins ou de résistances. La première, c'est peut-être la crainte des chefs d'entreprise et voir des cadres qui se sentent peut-être aussi remis en cause dans leur rôle sur la question de la productivité. On entend beaucoup de chefs d'entreprise dire « bah oui, le salarié chez lui, il est un peu livré à lui-même et bien on craint que ça soit difficile d'avoir en gros la même productivité ou le même encadrement quand on est au bureau ». Et d'un autre côté, on a aussi certains salariés qui se plaignent justement d'être isolés et d'avoir peut-être aussi des difficultés à travailler dans des conditions optimales.
Oui, tout à fait. Ce que vous pointez, c'est que en organisant le télétravail, je ne parle pas de mars 2020 qui est évidemment une période tout à fait spécifique, mais depuis, on a fait comme si rien ne changeait, sauf qu'on travaille dans deux lieux différents. Je pense qu'on n'a pas du tout adapté ni le management, ni les réunions, ni les outils, etc., à un travail à distance. Et on a fait comme si c'était une duplication ailleurs de la vie de bureau. Et je pense que là, on a commis une erreur très forte. Pourquoi ? Parce que l'un des freins aujourd'hui au télétravail, c'est la lassitude des salariés de passer 8 heures par jour en réunion, parce que les relations informelles manquent, parce que les pauses manquent tout simplement. Moi, le nombre de salariés avec lesquels je mène des entretiens qui me disent « mais on n'a même pas une minute entre deux réunions », ce qui psychologiquement, et ne serait-ce que pour la fatigue, est extrêmement pénible. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas dans la vie de bureau et qu'on mène à distance parce qu'on n'a pas pris l'habitude de considérer que la nature du travail a changé. C'est pas seulement une question de degré ou une question de nouvelle organisation, c'est une question de nature du travail. Le faire à distance, c'est pas du tout la même chose que de le faire au bureau. C'est une évidence de dire ça, mais du coup, il faut que ça change. La façon dont on organise ses journées, la façon dont on manage, la façon dont, à mon avis, qui est le point le plus important, comment on visibilise les gens qui ne sont pas là. Pourquoi je dis ça? Je pense que c'est l'un des plus grands risques sur le télétravail, c'est l'invisibilisation des salariés, parce que on a en France une tradition qui est que le présentéisme au bureau, c'est-à-dire le fait d'être là, c'est aussi une façon d'occuper symboliquement et en pratique l'espace dans lequel on est. C'est aussi comme ça qu'on occupe sa fonction, c'est quand on se voit. Et moins on voit les gens, plus on se dit, au fond, est-ce qu'ils existent? Est-ce que leur travail existe? Est-ce que leur fonction existe? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui reviennent au bureau pour faire exister leurs tâches, leurs fonctions dans un lieu dans lequel, quand on n'apparaît pas, c'est comme si on n'existait plus. Et donc, cette invisibilisation des salariés, c'est à mon sens l'un des freins majeur aujourd'hui au télétravail et je pense que la visibilisation, comment on fait exister des gens qui travaillent à distance, c'est un point extrêmement important qui là encore dépend un peu de notre capacité à changer les pratiques managériales qui sont les nôtres, l'évaluation du travail et c'est, je pense, les sujets de productivité sont des sujets au fond un peu annexes par rapport à ça. Je pense que les gens travaillent pas moins en télétravail ou de chez eux qu'au bureau. En revanche, ils ont besoin non pas d'être reconnus eux pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils font. Et donc la reconnaissance de la tâche, de la fonction, du travail est à mon avis l'un des sujets, avec la question des inégalités que je pointais avant, l'un des deux grands enjeux à traiter aujourd'hui lorsqu'on va généraliser, ancrer dans le temps cette organisation du télétravail.
Alors, vous parlez de l'invisibilisation des salariés. Il y a aussi, évidemment, l'accélération de la dématérialisation des tâches, mais aussi de la dématérialisation des relations sociales et même de travail. Et ça, dans une ampleur inédite, puisque non seulement on dématérialise les relations avec ses collègues de bureau, mais aussi avec ses clients ou ses partenaires. Donc, ça veut dire qu'on passe d'un univers de contact quand même humain, physique, à quelque chose de totalement distanciel. Ça aussi, ça quand même peut avoir des impacts dans la durée, surtout que là aujourd'hui on est sur des périodes relativement courtes, mais à l'échelle de plusieurs mois ou plusieurs années, qu'est-ce que ça peut aussi impliquer en termes de rapport au travail et de rapport à son environnement de travail?
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est un enjeu qu'on a découvert dès le premier confinement, c'est toute l'importance de la relation humaine, de la relation informelle dans la relation de travail. C'est-à-dire prendre un café avec un collègue, c'est pas seulement prendre 5 minutes agréables dans sa journée. La relation informelle, c'est ce qui permet de réguler une relation de travail, c'est ce qui permet de comprendre des sous-entendus, c'est ce qui permet de faire baisser une tension, une pression entre deux collègues, c'est ce qui permet de voir, en regardant un collègue, son patron ou un de ses salariés être, dans quel état il est. Donc, toutes ces relations-là qui fondent quand même la relation humaine, c'est-à-dire le fait de se voir, de se regarder, le non-verbal, le suggestif, l'implicite, tout ça sont des choses qui sont constitutives de la relation humaine et donc de la relation de travail, mais de la relation de travail parce que la relation humaine, et on voit bien que dans les écrans, par les écrans, on n'arrive pas à faire vivre ces relations-là. On a beaucoup de difficultés parce qu'on se voit à travers les écrans, d'abord on est assis, on ne bouge pas, on est un peu figé, nos expressions sont figées, tout devient très formel et donc notre incapacité à faire vivre la relation informelle appauvrit beaucoup la relation de travail. C'est en tout cas ce que m'ont dit beaucoup des salariés que j'ai rencontrés pour mener des entretiens, où tous m'ont dit, dès qu'on est en relation à distance avec les clients, avec les partenaires, etc., on est au cœur de la mission, on est en exécution pure, on va un peu droit au but, et au fond on perd toute la richesse d'une relation qui permet d'être un peu plus créatif, de produire ensemble, etc. Et je pense que ça doit beaucoup nous alerter pour ne pas passer à 100% de télétravail pour toutes les tâches très télétravaillables, pour deux risques à mon avis. Le premier, c'est celui que vous pointez là, c'est-à-dire que la dématérialisation de la relation travail, c'est aussi une dématérialisation de la relation tout court. Et donc, on perd une grande partie des bénéfices et de la richesse de créative aussi de la relation de travail. Et le deuxième risque, c'est que, au fond, tout ce qui est dématérialisable peut être du coup télétravaillable et du coup, pourquoi pas, externalisable dans les organisations. Donc, à force d'être loin d'un lieu commun, à force d'être loin d'un lieu dans lequel on construit ensemble des relations qui sont utiles à la relation de travail, non seulement on appauvrit la tâche, je pense qu'on est aussi moins productif, pas sur une journée, mais on est moins productif sur la tâche. Et donc, je pense que c'est un appauvrissement un peu global du travail et donc de la relation de travail. Et je pense que ça, les organisations syndicales et dans les organisations, c'est quelque chose qui remonte de manière très forte, qui est aussi l'un des sujets qui sont devant nous pour essayer de réguler un peu les risques du télétravail. Je ne considère pas qu'il est l'enfer, mais ce n'est pas non plus le paradis. Et donc, il faut trouver des moyens de réguler cette nouvelle organisation du travail.
Alors, dernière question, si vous le voulez bien, c'est aussi le facteur de risque sur la vie privée. Et le fait que c'est plus compliqué encore, c'était déjà vrai avec les portables, avec les mails, mais est-ce que le risque ou pas aussi en travaillant chez soi, c'est que, on ait moins de respect des horaires et des temps de vie privée et que finalement on accroisse la pression un petit peu, même quand on est à distance, sur le salarié?
Oui, vous avez tout à fait raison. même si on se plaint beaucoup, à juste titre, du temps qu'on passe dans les transports, hein, qui est évidemment très important, notamment en Île-de-France, hein, vous le signalez au début de la présentation, ce temps-là était quand même un temps, ou en tout cas le temps entre deux lieux est quand même un temps dans lequel on peut séparer les espaces. Ça fait peu de temps à l'échelle de l'humanité qu'on travaille dans un lieu dans lequel on ne vit pas, hein, ça fait à peu près 200 ans qu'on a distingué le lieu de vie du lieu de travail, et ça a quand même eu beaucoup de valeur dans la relation entre les uns et les autres, mais surtout pour la constitution de ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'on a pu montrer différentes facettes sur son lieu de travail qu'à la maison. Par exemple, on sait qu'on a des collègues qui sont plus ou moins à raconter leur vie ou au contraire très discrets. Il y a des collègues qui aiment bien fêter l'arrivée du petit dernier au bureau et d'autres pas du tout. Et donc au fond, cette capacité à préserver d'un côté ou de l'autre notre vie professionnelle ou notre vie personnelle, c'est aussi ça qui fait que nous sommes des êtres capables d'avoir notre subjectivité, notre libre arbitre, notre façon de se présenter, notre vie privée, nos pans de vie, et ce qui permet aussi de cloisonner, de rendre les vies un peu étanches. Et je pense que ce sont des éléments tout à fait importants pour notre santé morale et notre santé mentale, et que là on a vu évidemment au premier confinement, mais pas que, le fait de refusionner sans aucune étanchéité l'ensemble de nos vies, fait que tout est un peu mêlé, on ne sait plus très bien à qui on parle, à quel moment, quel est le rôle qu'on doit avoir, quels sont les codes qu'on doit avoir, et beaucoup de salariés se plaignent de ça, et je pense qu'effectivement c'est un risque majeur pour la vie personnelle des salariés d'avoir trop d'immixion de leur vie professionnelle chez eux.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah Proust. Merci. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage avec, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, qui s'appelle Télétravail, la fin du bureau. Et puis que vous êtes également fondatrice du cabinet Selkis. Et on le voit, vous êtes particulièrement précise et sur les questions liées aux ressources humaines et à l'organisation du monde du travail. Et on vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission que nous avons consacrée à un phénomène relativement nouveau, en tout cas dans son ampleur et dans sa durée. C'est le passage en télétravail de nombreux salariés dans de nombreuses entreprises, avec une demande du gouvernement depuis le 3 janvier de massifier, de généraliser le télétravail quand c'est possible, évidemment, et d'aller même jusqu'à 4 jours par semaine. Hein, 3, c'était plutôt 3, et puis maintenant, on demande d'aller potentiellement jusqu'à 4. Et pour en parler avec nous dans l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Maître Frédéric Sicard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, ancien bâtonnier, et vous allez nous dire qu'est-ce qui est en train de changer dans la vie des salariés et des entreprises avec la mise en place sur une échelle, on peut le dire inédite, mais vous le savez, c'est parce qu'il y a un contexte sanitaire extrêmement particulier, mais qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que c'est en train de changer sur le rapport entre les entreprises et leurs salariés et entre les salariés et leur rapport au travail?
Vous avez tout dit, c'est inédit. On connaissait le télétravail dans le Code du travail, qui prévoyait qu'on pouvait, à titre dérogatoire, soit par un accord d'entreprise, soit par une disposition contractuelle, assouplir les modalités de travail et prévoir un travail à domicile, un télétravail. Et puis là, ça a pris une ampleur telle il faut bien s'adapter. Ce que dit essentiellement le Code du travail, c'est qu'on doit justifier d'une dérogation expresse, c'est-à-dire en clair un écrit. Et l'ampleur du phénomène est telle que ce qui manque un peu en ce moment, c'est des traces écrites de ce que l'on a convenu, probablement à titre provisoire, nous dit-on. Mais enfin, vous savez, parfois le provisoire dure. Et la première des choses, ça va être le choc entre ce qui aura été écrit ou ce qui n'aura pas été écrit et la démonstration de ce qu'en fait le salarié ou l'employeur avait prévu. Ça, je le dis pour les auditeurs, ce qui est important, c'est quand même d'avoir un peu des traces pour voir comment les choses se passent. Et puis, dans les phénomènes formidablement intéressants qui viennent, c'est que le Code du travail prévoyait que les frais soient essentiellement à la charge de l'employeur, et évidemment avec une telle ampleur du phénomène, ça touche des employeurs qui n'ont pas forcément autant de moyens que ceux qui à l'origine avaient imaginé le télétravail, donc il y a la question financière. Et puis il y a aussi la question du contrôle des horaires, parce qu'évidemment quand on est chez soi, on fait un peu aussi ce qu'on veut, donc comment va s'exercer ce contrôle? On avait prévu dans le Code du travail que tout cela soit regardé très sérieusement par l'employeur qui ouvrait la journée, contrôlait le temps de pause, fermait la journée, etc. Vous imaginez bien que c'est pas possible sur une telle échelle. Et puis, troisième sujet, travailler dans un bureau et en équipe, c'est pas la même chose que travailler chez soi. Et là, ça suppose à la fois que l'employeur s'adapte et que le salarié aussi s'adapte, chacun devant prendre la mesure des difficultés qui sont liées à la distance. Ça vous fait trois sujets et une recommandation pour vos auditeurs. Laissez des traces écrites, surtout par pitié, pour qu'on arrive un peu à savoir ce qui a été prévu. Voilà, je vous ai fait part de ma première réaction.
Alors, on a vu que sur cette nouvelle injonction ou recommandation gouvernementale de passage au télétravail pour affronter la nouvelle vague épidémique, il y avait une moindre réponse, puisqu'il n'y a que 60% des salariés qui sont potentiellement concernés par cette mise en télétravail, pour 78% en avril dernier, donc là il y a moins de passage au télétravail. Il y a sans doute une multitude d'explications. La première, semble-t-il, c'est qu'il y a une double crainte. La crainte d'invisibilisation des employeurs sur leurs salariés, puisqu'on ne les voit plus, ils sont à distance, donc on peut moins les contrôler, on a peur qu'ils perdent en productivité. Et inversement, cette invisibilisation peut aussi être mal vécue par le salarié, parce que c'est vrai que aller au bureau, c'est un acte social, c'est une reconnaissance, et puis qu'on a aussi des échanges avec ses collègues, et donc on a un peu peur parfois d'être oublié par l'entreprise. Est-ce que ça vous paraît un des freins principaux à cette difficulté qu'on a quand même à aller vers plus que 60 ou 70% de mise en télétravail?
Bien sûr, oui, c'est un des gros problèmes. C'est l'isolement pour le salarié, qui a l'avantage de pouvoir permettre une meilleure concentration, mais l'isolement, c'est aussi la difficulté pour l'employeur de savoir donner un ordre à distance, et aux salariés de savoir ne pas surréagir à un ordre qui lui arrive à distance. On a beaucoup de mal à bien interpréter une instruction quand on est chez soi et qu'on la reçoit par mail, par SMS, voire même par téléphone. C'est pas la même chose. On voit pas son interlocuteur, et vous savez que dans la communication, on dit souvent que plus de 90% de la communication se lit sur le visage ou par les gestes et non par les mots. Alors quand on ne lit que les mots, on a perdu en cours de route une bonne partie de la communication, puisque on doit en principe ne plus comprendre que si on suit les experts.
Tout devient formel. Tout devient formel. Il n'y a plus d'informel, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de contexte.
Il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de contexte. Donc, il faut faire très attention. On voit bien dans les deux sens que on a des tons qui montent rapidement, c'est-à-dire qu'on a des affaires qui n'en sont pas, tout simplement parce que l'employeur s'est exprimé de manière un peu trop froide, ou parce que le salarié a surréagi alors qu'il n'y avait absolument pas lieu de surréagir. C'est vrai que ça, c'est une des premières difficultés. On peut espérer qu'avec le temps et les personnalités, les choses s'arrangent. En droit, parce qu'il faut toujours vous donner des réponses en droit quand même, on va surtout travailler sur la notion de proportion. Est-ce que la réaction a été la bonne? Et est-ce que la conséquence dépasse la mesure? Vous pouvez tout à fait surréagir, mais enfin, si ça n'a pas de conséquence sur le travail, c'est pas très grave. Si vous surréagissez et que ça compromet l'exécution du contrat, c'est problématique. Donc voilà, vous avez un début de réponse sur une première piste qu'on essaye de trouver pour analyser ces situations, mais vous avez raison. C'est peut-être aussi cette question de l'isolement et de l'absence d'interaction sociale qui a freiné la reprise en télétravail. Je crois qu'il y a quand même aussi un deuxième phénomène, c'est qu'on ne sait plus trop bien quand ça va finir. pour ça que, en début de propos, j'insistais sur, faut faire des écrits pour savoir à peu près où on en est. Faut pouvoir écrire en disant, écoutez, on s'organise comme ça pour le mois de janvier, puis on verra en février. Mais il faut qu'il y ait des traces parce que une autre difficulté de ces recommandations gouvernementales, c'est, ça va durer jusqu'à quand? Parce que on gère pas de la même manière quand on sait que c'est pour un mois, mais à revoir, que si on sait que c'est pour une durée absolument indéterminée. Donc je pense que c'est deux phénomènes, celui que vous expliquez, c'est-à-dire le problème de l'interaction sociale, et deuxièmement, l'incertitude liée à l'organisation. Pour que ce soit bien clair, bien carré, il faut de temps en temps pouvoir dire, ben, on se met comme ça, mais c'est pour les deux prochains mois. Après, on verra pour le troisième mois comment on fait. Voilà.
Alors, je vous poserai une question sur justement... les sanctions que peuvent encourir les entreprises qui ne respecteraient pas les injonctions du gouvernement, parce qu'il y en a, c'est prévu par les textes, et on parle même de les durcir, mais avant de vous faire réagir sur ce sujet, je voudrais aborder également un autre facteur de difficulté pour le passage en télétravail d'un maximum de salariés, c'est la question des inégalités. Il y a plusieurs types d'inégalités. D'abord, il y a des inégalités liées à la taille de l'entreprise. C'est pas pareil de passer en télétravail dans une petite PMI, PME ou dans une très grosse entreprise, parce que derrière, ça veut dire aussi des inégalités en termes de conditions ou de mise en condition. Il y a des entreprises qui doivent normalement, je crois, juridiquement donner les moyens à leurs salariés de travailler chez eux, mais on s'imagine bien que c'est plus difficile quand on est dans une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens d'équiper les salariés chez eux que dans des plus grands groupes où là, effectivement, il y a sans doute des choses qui sont prévues.
Alors, le code est précis, hein. Ça revient à tous les employeurs, petits ou grands, d'équiper le salarié. Mais qu'est-ce qu'un équipement? Parce que à l'origine, avant la crise sanitaire, ce qu'on imaginait comme prise en charge, c'était à la fois, alors on vous donne l'ordinateur, le matériel, mais il faut payer de l'électricité, il faut payer une part du chauffage, il faut payer une part de l'installation. Tout ça, c'est bien gentil, mais 95% du réseau économique, c'est les PME. Et sur ces 95% d'entreprises, certaines n'ont pas les moyens de fournir autant de financement et de convenir au cas par cas. Donc il faut en avoir conscience, les choses bougent. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que tout employeur a l'obligation de fournir aux salariés les moyens de travailler en télétravail, mais que par contre, cette obligation, elle est adaptée en fonction des moyens d'employeur. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de moyens économiques, évidemment, vous financez moins que si vous en avez plus. Voilà. La loi en elle-même, en principe, c'est le fameux ordinateur doit être fourni par l'employeur. S'il n'est pas fourni par l'employeur et si le salarié utilise son ordinateur, il devrait convenir, peut-être par un petit échange de mails, par exemple, de combien va être l'indemnisation, en disant, écoutez, j'utilise mon ordinateur, est-ce qu'on peut convenir d'une petite indemnisation qui tienne compte à la fois de l'usure du matériel, mais également de ma consommation d'électricité. Il faut le faire le plus souplement possible, mais c'est le droit du salarié d'obtenir en tout ou partie une prise en charge. Voilà, ça c'est le premier point qui est important.
D'accord.
Alors, c'est... vous évoquiez aussi les inégalités, il y en a une qui est singulière dans tout ceci, qui est la question des tickets restaurants, parce que vous savez que nous avons deux jugements totalement contradictoires sur cette question, un jugement qui a dit il faut distribuer les tickets restaurants même si on mange chez soi, et puis il y en a un autre qui dit les tickets restaurants c'est pour ça a été prévu par la loi pour manger à l'extérieur, quand on est à l'extérieur, pas quand on est chez soi. Donc il ne faut pas obliger les employeurs à donner des tickets restaurants. On ne sait pas encore ce que va être la décision de justice définitive, c'est un point technique qui n'est pas inintéressant, mais vous vous rappellerez peut-être qu'il y a 3 ans, avant la crise, l'inspection du travail avait décidé de poursuivre pénalement un employeur qui n'avait pas surveillé la distribution des tickets restaurants et qui ne s'était pas aperçu qu'il distribuait plus de tickets restaurants qu'il n'y avait de jours réellement travaillés. Et bien, on en est revenu de ce monde-là, puisque la discussion est maintenant différente, on se demande si cet avantage du ticket restaurant constitue quelque chose qui s'intègre au contrat, et comme vous le disiez, il y a le principe d'égalité, que l'on soit chez soi ou que l'on soit sur place dans l'entreprise. Voilà, ça c'est une des discussions nouvelles que la situation actuelle a ouvert et va nous amener à examiner.
Alors, ça sera ma dernière question. Elle concerne effectivement plutôt les entreprises. Le gouvernement commence un petit peu à hausser le ton, puisque les premiers chiffres d'enquête sur le passage au télétravail montrent qu'on est en dessous de ce qui s'était fait l'année dernière, et donc on est aux alentours de 60%. Donc, la ministre du Travail parle de contrôle dans les entreprises par l'inspection du travail, et le Parlement est en train de réfléchir à la mise en place de sanctions plus importantes que les sanctions prévues actuellement au code pénal, parce que, disent-ils, certaines entreprises sont prêtes à payer ces condamnations plutôt que de passer en télétravail. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
Ils feront bien comme ils voudront, mais de toute façon, pour organiser les contrôles, faut-il encore avoir du monde susceptible d'assurer ces contrôles ? Pas sûr que l'inspection du travail ait suffisamment d'effectifs pour en faire autant. Pour qu'il y ait une infraction pénale, faut-il encore qu'il y ait un minimum. Alors je sais qu'on a toujours tendance à dire maintenant, quand on a franchi la ligne jaune, on a franchi la ligne jaune, donc l'infraction matérielle. Mais enfin quand même, en droit, en principe, on réfléchit à la proportion, c'est-à-dire que vous avez quand même des gens qui ne peuvent pas faire autrement. Et on a la possibilité de débattre dans une démocratie en disant à l'État, écoutez, vous avez raison, il y avait une obligation, mais j'ai fait comme j'ai pu. Et donc de prouver qu'on a fait comme on a pu. Évidemment, si on peut pas le prouver, on est condamné, mais si on peut le prouver, il n'y a pas tellement de raisons que la sanction pénale tombe. Donc je doute que ce soit une bonne idée de mettre des sanctions pénales sur des choses aussi difficiles à contrôler et difficiles à mesurer. La vraie sanction, vous savez, c'est quand un employeur abuse, il perd son salarié. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment où l'inacceptable entraîne des sanctions financières parce que le salarié finit par se plaindre. Je veux dire, une entreprise, c'est d'abord le souci des autres, le souci de ses salariés pour qu'ils restent avec vous et qu'ils puissent avec vous travailler. Je veux dire, une entreprise sans salarié, des fois ça marche pas.
Donc, ça marche pas, ça marche moins bien, comme dirait l'autre.
Voilà. Le meilleur encouragement, c'est de pouvoir fidéliser ses salariés en leur donnant ce qu'ils attendent, c'est-à-dire un confort de travail qui doit sûrement être un équilibre entre les deux, c'est-à-dire leur sécurité sanitaire, la possibilité de travailler et d'exécuter leurs tâches et de le faire de manière autant que faire se peut dans les meilleures conditions. C'est important ce que je vous dis parce que la conception du XXe siècle, c'était vraiment je commence à travailler à telle heure, je termine à telle heure. Vous savez, cette espèce de terrorisme qui existait. Il est probable que, avec ce qui nous arrive, la conception du XXIe siècle, c'est peu importe de savoir comment tu as fait ta tâche, mais tu l'as faite.
Tu vas passer de métro boulot dodo à quelque chose de différent.
De beaucoup plus autonome. Et c'est dans cette recherche de l'autonomie qu'on doit fonder toutes nos... Il faut toujours voir le positif dans une affaire.
Dans une crise.
Vous dites, vous savez, il y avait ce mot de Jean Monnet qui disait c'est avec les crises que les hommes se décident, parce que sinon ils n'évoluent pas. Eh bien, espérons que la crise va justement donner du positif et donner plus d'autonomie dans l'exécution des tâches. C'est peut-être là un véritable avenir du droit du travail.
Et je pense que c'est plutôt un mot de la fin qui va bien sur ce sujet-là, c'est-à-dire de finir sur une note optimiste dans un contexte qui prône. Oui, il faut toujours l'être. Enfin bon, c'est vrai que là, depuis presque 2 ans, on a souvent des mauvaises nouvelles qui alimentent un climat un peu morose. Mais bon.
On va essayer de sourire.
On va essayer de finir sur ce point sourire. Merci beaucoup, Maître Sicard. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et que vous avez bien répondu précisément à toutes nos questions, et je suis sûr que nos auditeurs seront ravis d'avoir pu écouter vos réponses et s'en nourrir dans leurs expériences peut-être de télétravail ou dans le présent ou dans l'avenir. C'était l'émission Et si on en parlait sur Radio Orient, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Maître.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.